Vous êtes bien sur Radio Orient, Wallis Glaise. Blinken en Égypte pour tenter de conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza. J-8 avant les Jeux Paralympiques de Paris, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce jusqu'à 25 000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité. Et avec ces Jeux Paralympiques, la compétition battra son plein nouveau dans la capitale. Les sportifs en situation d'handicap seront mis à l'honneur pendant 2 semaines. Nous écouterons Arnaud Litou, manager de la performance paralympique à l'Agence nationale du sport. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit aujourd'hui en Égypte sa tournée destinée à convaincre les belligérants dans la bande de Gaza d'accepter un cessez-le-feu assorti d'un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. L'armée israélienne a annoncé justement ce matin avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de 6 otages morts au cours d'une opération menée conjointement avec le renseignement intérieur. Gros plan sur le sort et les souffrances du peuple palestinien. Le peuple palestinien est devenu un peuple oublié. Et ce sont les mots du directeur de l'œuvre d'Orient dans une tribune publiée récemment par le quotidien Le Monde. Je vous propose d'écouter Monseigneur Pascal Golnisch qui était l'invité de Rencontre, extrait de cette émission.
Les religions, dans leur point de vue particulier, doivent permettre la paix. Il peut y avoir ici ou là des religieux, y compris d'ailleurs parmi quelques chrétiens, assez rares, mais quand même, qui ne veulent pas réellement la paix, mais globalement, les religions peuvent être source de paix. En tout cas, c'est le cas de l'immense majorité des chrétiens, et en particulier des responsables chrétiens. Donc, il faut que nous soyons beaucoup plus en soutien de ces chrétiens de Terre Sainte, non seulement sur le plan économique, c'est difficile pour eux, parce que l'arrêt des pèlerinages leur pose des tas de difficultés de survie économique, mais nous devons être à leur côté d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain, je dirais d'un point de vue politique, avec une lettre majuscule, avec un P majuscule, de pouvoir vraiment être à leur côté, car ce sont des artisans de paix. Et tout le monde reconnaît que ces responsables chrétiens sont des artisans de paix. Donc, il n'y a pas tant que cela dans la région. Il faut que les religieux, chrétiens, musulmans, israélites, puissent se parler indépendamment des politiques pour arriver à faire avancer cette paix.
C'est un appel que vous lancez aujourd'hui.
Oui, un appel surtout, non pas tellement à eux, qui le savent bien, mais un appel à nous, qui devons être plus en soutien de ces initiatives religieuses. Je pense par exemple que le voyage très remarquable du patriarche latin de Jérusalem dans la bande de Gaza n'a pas eu l'écho international qu'il y aurait dû y avoir.
Et vous soulignez, ce qui n'est pas si souvent souligné, que les souffrances des Palestiniens n'ont pas débuté après la riposte d'Israël suite aux attaques du Hamas le 7 octobre.
En effet, depuis 1948, on n'a rien proposé aux Palestiniens de manière crédible. Et d'une certaine manière, on a abandonné la bande de Gaza entre les mains du Hamas et on ne s'est pas plus soucié que cela du devenir de cette population. Un jeune Palestinien qui a 20 ans ne peut pas sortir de cette zone, il n'a pas de travail, il n'a pas de perspective. Et après ça, on semble s'étonner qu'il cède aux visées des plus violents.
Monseigneur Pascal Golnisch au micro de François-Xavier de Calonne. À présent, gros plan sur une maladie dont on entend beaucoup parler en ce moment, la maladie anciennement appelée variole du singe. Des cas de Mpox ont récemment été détectés hors d'Afrique. La Mpox a été déclarée urgence de santé publique et de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Sur cette maladie et sur le risque de sa propagation, entretien avec le professeur Eric Homme, infectiologue à l'Hôtel Dieu. Écoutez-le.
On en est peut-être au début d'une infection émergente. Comme d'habitude, quand on est face à une émergence, ben on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc, il faut être très prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà eu un cas en Suède, chez un voyageur qui revenait d'un pays d'Afrique, où il y a une endémie qui n'est pas contrôlée, ça c'est clair. Donc, ça fait présumer qu'il y ait d'autres cas qui n'ont pas encore été repérés, mais qui sont probables chez des voyageurs qui sont contaminés en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, pour être clair.
De nombreuses fausses informations circulent sur cette maladie. Comment cette maladie se transmet-elle ?
Le problème, c'est qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens parce qu'il y a plusieurs monkeypox. Il y a le monkeypox 2 qu'on a eu il y a 2 ans et qui était une maladie principalement observée chez les hommes et notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Il y a le monkeypox 1 qui jusqu'à maintenant n'était jamais sorti d'Afrique et qui d'ailleurs n'est toujours pas sorti d'Afrique et qui est une maladie plutôt avec des enfants, 80% d'enfants avec une transmission intrafamiliale. Et puis là, depuis mars 2023, a émergé en République démocratique du Congo un monkeypox 1B. Très important, c'est 1B, c'est-à-dire c'est un variant qui a émergé à partir du monkeypox 1. Et celui-là, eh bien, il est transmis par voie sexuelle, un peu comme le monkeypox 2. Et il se transmet aussi dans des endroits où il y a des mauvaises conditions d'hygiène, où il y a une promiscuité très importante, et notamment dans les camps de réfugiés de l'est du Congo, où malheureusement il y a beaucoup de problèmes politiques avec beaucoup de camps de réfugiés. À partir de l'est du Congo, il est passé dans les pays adjacents, Burundi, Rwanda, Ouganda, et puis maintenant, il est passé au moins en Suède, en tout cas, par un voyageur.
Il n'existe pas de traitement pour le moment, mais il existe un vaccin.
Clairement, il n'y a pas de traitement. Quant au vaccin, le vaccin, il a été jamais très bien évalué. Je vous rappelle que c'est un vaccin de la variole, c'est pas un vaccin de la variole du singe. On tient compte de la parenté entre la variole et entre la variole du singe, c'est-à-dire le monkeypox, pour avoir évalué ce vaccin. Alors, il a été évalué dans des études très rigoureuses, mais il a quand même été beaucoup distribué à l'époque du monkeypox 2. Et on sait qu'il marche. Il marche sous réserve d'avoir eu 2 injections à 1 mois d'intervalle. Et la protection n'est pas complète, puisque il y a eu plusieurs études qui ont évalué indirectement ce vaccin et l'efficacité entre 70 et 90%. Il y a une étude récente française qui dit 99%, mais ça paraît trop beau pour être vrai. Et on sait que le vaccin n'empêche pas les réinfections. Enfin, en tout cas, les infections, puisque, par contre, elle empêche la gravité. Clairement, le vaccin limite le nombre d'infections, c'est clair, et limite la gravité de la maladie quand on l'attrape. Et on parle là du monkeypox 2. Or là, on a affaire à un monkeypox 1B, et le vaccin n'a évidemment jamais été évalué sur le monkeypox 1B.
L'effet du vaccin contre le monkeypox 2 fait penser à celui utilisé contre le Covid-19. Comment vous expliquez cette méfiance, voire cette défiance aujourd'hui en France vis-à-vis de la vaccination? C'est une méfiance qui s'est accentuée depuis la crise du Covid-19.
Je pense qu'elle ne concerne pas tellement les personnes à risque de monkeypox, parce qu'ils se sont tous fait vacciner sans aucune défiance. Je parle là des personnes à risque, c'est-à-dire principalement personnes à risque sexuelles et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Ils se sont vaccinés assez largement en France. La vaccination était couverte par la Sécurité sociale, contrairement à d'autres pays, et donc ils sont vaccinés en masse. Je trouve qu'il n'y a pas eu de défiance particulière vis-à-vis de ce vaccin dans les groupes à risque. Voilà.
Sachant que cette maladie pourrait être transmise à des groupes qui, aujourd'hui, ne sont pas considérés comme étant à risque.
Ça, c'est hypothétique quand même, parce que on sait que c'est possible, effectivement, dans des conditions de promiscuité, dans des camps de réfugiés, etc., que ça diffuse au-delà du cercle des relations sexuelles. Je parle du 1B, du monkeypox 1B, mais on ne sait pas si le monkeypox 1B va se comporter comme le monkeypox 1, c'est-à-dire s'il va se transmettre parmi les enfants, dans les cercles familiaux, etc. Pour l'instant, c'est avant tout une maladie sexuellement transmissible.
Et quels sont les principaux symptômes du monkeypox 1B ?
C'est une éruption cutanée qui est un peu comme une grosse varicelle, avec des gros boutons, avec des atteintes muqueuses potentielles, muqueuses buccales, muqueuses génitales, muqueuses anales, et avec un gros tableau viral, comme on voit dans les grippes, avec de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Et puis, ce qui caractérise cette infection, c'est les ganglions. Donc globalement, c'est une triade, syndrome grippal, enfin pseudo-grippal, éruption cutanée, polyganglion.
Les personnes qui vous écoutent, qui ont été particulièrement traumatisées, le mot est peut-être légèrement fort, mais par toute cette période liée au Covid-19, vous leur dites aujourd'hui qu'ils ne vont pas vivre la même situation avec ce nouveau virus ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vivent cette situation. J'aurais plutôt tendance à être rassurant. Après, il y a des éléments qu'on maîtrise pas du tout. Comme vous savez, comme je vous l'ai dit, on est face à une infection émergente, donc on ne sait pas tout. Et on va découvrir les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et deuxièmement, ça va beaucoup dépendre, comme c'est avant tout une maladie sexuellement transmissible, autant qu'on sache pour le moment, ça va dépendre avant tout des précautions qui vont être prises, notamment en matière de ce qu'on appelle le safer sex.
Le professeur Eric Homme au micro de François-Xavier de Calonne. J-8 avant le début des Jeux paralympiques, un point sur le dispositif de sécurité de ces Jeux qui s'est tenu ce matin devant la presse au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin s'est exprimé aux côtés de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, et du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet. François-Xavier de Calonne était sur place pour Radio Orient.
Oui Wallis, c'est la première fois que la France accueillera des Jeux paralympiques d'été. Alors en plus de l'enjeu sportif, l'enjeu sécuritaire reste bien entendu une donnée importante. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a pas de menace caractérisée en France liée à l'organisation de ces Jeux. Pas de menace, mais pas de relâche. Gérald Darmanin qui s'est réjoui de l'absence d'incident lors des Jeux Olympiques. Mais les moyens sont là, avec l'engagement de 15 000 forces de l'ordre pour la cérémonie d'ouverture. Ce sera place de la Concorde, mercredi 28 août, dans 8 jours. Il y aura 35 000 spectateurs en tribune, dont près de 5 000 athlètes. Lors de ces Jeux, jusqu'au 8 septembre, 25 000 forces de l'ordre seront sur le terrain en Île-de-France et à Châteauroux. Ils seront appuyés par 3 forces d'intervention, le GIGN, le RAID et la BRI. Cela représentera 300 personnes. Plus de 10 000 agents de sécurité privée seront également mobilisés. Aux côtés de Gérald Darmanin, lors de la présentation de ce dispositif de sécurité Place Beauvau, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, souligne que ces Jeux mobilisent l'énergie de tous les territoires français. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, était lui aussi aux côtés du ministre de l'Intérieur, jours avant l'ouverture des Jeux, et il l'a assuré avec un regard de compétiteur. « On est prêt », a-t-il dit. La France prête, mais sur le qui-vive, jusqu'à la cérémonie de clôture au Stade de France à Saint-Denis le 8 septembre prochain.
Merci à vous François-Xavier de Calonne. Et avec ces Jeux paralympiques, la compétition battra son plein de nouveau dans la capitale. Les sportifs en situation de handicap seront à l'honneur pendant 2 semaines. Arnaud Litou est manager de la performance paralympique à l'Agence nationale du sport. Il nous éclaire sur les Jeux paralympiques. Écoutez-le.
Déjà, ils vont très bien se passer. Quand on voit l'engouement qu'il y a eu pour les Jeux Olympiques et l'engouement qu'il y a pour la billetterie à la sortie des Jeux Olympiques, pour les derniers billets qui restent pour les Jeux Paralympiques, on sait qu'on va avoir un événement extrêmement bien livré. On va aussi avoir un excellent accueil public. Pour être très honnête, pour être sur les stages de préparation terminaux de nos athlètes, ils sont extrêmement motivés comme les entraîneurs et l'encadrement. Tout le monde est fin prêt et impatient d'en découdre, si je puis dire, en tout cas, de rentrer en compétition.
Pour parler un petit peu des infrastructures, est-ce que le village est-il le même ?
Alors, le village est exactement le même, comme pour tous les Jeux paralympiques depuis les Jeux de Séoul, c'est-à-dire dans les années 60. Auparavant, les compétitions avaient lieu à des dates différentes et sur des lieux différents. Depuis que c'est ensemble, c'est toujours le même village qui est partagé. On utilisera le même bâtiment que les équipes de France olympique. C'est-à-dire que l'aménagement qui a été fait pour les équipes de France olympique ont aussi été pensés pour les équipes paralympiques. Des aménagements spécifiques qui sont faits pour nos athlètes paralympiques sur des zones médicales, paramédicales et de préparation. Sinon, pour les sites, pour Jeux olympiques, vous avez 38 sports, il y en a 22 pour les Jeux paralympiques. Ce sont les mêmes sites qui sont partagés. Là, entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, le travail de Paris 2024, c'est mais de les mettre en conformité par rapport aux besoins d'accessibilité, de retirer les anneaux olympiques pour avoir l'agitos qui est le symbole paralympique, et puis aussi des aménagements sur les terrains de jeu au sport paralympique quand il y a des différences avec les terrains olympiques.
Maintenant parlons un petit peu de la performance. Il est essentiel que les athlètes paralympiques se préparent dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez mis des mesures en place ?
L'Agence nationale du sport a été créée officiellement en 2019, même si on avait commencé à travailler dès mon arrivée en 2018 à sa préfiguration. En 2019 a été publié un document de stratégie pour le sport de haute performance français, olympique et aussi paralympique, dédié au paralympisme avec les spécificités du paralympique qui nous permettent de répondre à un certain nombre d'enjeux propres au sport et handicap. Cette stratégie a permis d'avoir une approche structurante pour l'ensemble des fédérations. On va avoir 13 fédérations en charge des équipes de France paralympique aux Jeux de Paris. Le travail qui a été mis en place à travers cette stratégie, c'est de décliner des plans d'action propre à chaque fédération, propre à chaque sport. Une philosophie d'ensemble qu'on partage, mais derrière, la mise en application, elle se veut vraiment sur mesure.
Quels sont les axes de développement ?
Il y a plusieurs axes qui ont été mis de l'avant, c'est-à-dire de professionnaliser les athlètes et de leur donner des conditions socio-professionnelles adéquates pour qu'ils puissent se dédier à leur projet sportif et pas faire ça à temps très réduit ou extrêmement partiel, professionnaliser l'encadrement, financer de l'équipement de haute performance pour les athlètes ciblés, même de travailler avec des industriels comme Airbus pour faire de l'innovation technologique quand on a des quelques fournisseurs sur la scène internationale qui ne sont pas toujours en mesure de répondre à des besoins très spécifiques. C'est aussi une mobilisation du secteur médical spécialisé sur le handicap, ainsi que la médecine sportive. Vraiment caractériser chaque athlète, chaque situation de handicap, parce qu'il faut savoir que chaque handicap est singulier. Tout ça, c'est pour apporter un énorme changement par rapport à la réalité des athlètes paralympiques jusqu'à Rio 2016, par exemple, où des athlètes étaient principalement autofinancé. Et ce changement de paradigme qu'on porte à l'Agence nationale du sport, qu'on porte à travers cette stratégie Ambition Bleue, c'est de traiter un athlète comme un athlète.
Arnaud Litou, manager de la performance paralympique à l'Agence nationale du sport, au micro d'Arthur Claude Savoie. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.